Jean chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui passe par-dessus le mur du parc à brebis, au lieu d'entrer par la porte, c'est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis reconnaissent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Si c'est un autre, elles ne vont pas le suivre. Bien mieux, elles s'enfuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. On avait déjà lu avec vous Matthieu chapitre 5, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les faux apôtres, les faux prophètes, Matthieu 7, 21, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, entendons que nous avons prophétisé, fait des miracles et tout ça, et allez-vous-en, je ne vous connais pas. On avait essayé de réfléchir donc sur quel est le critère qui va me permettre de reconnaître qui est un bon berger et qui n'est pas un bon berger. Et ceux qui ne sont pas des bons bergers, ce sont justement des voleurs et des bandits qui passent donc par-dessus le mur du parc, au lieu d'entrer par la porte. Donc, celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis reconnaissent sa voix. Il appelle chacune par son nom. Donc, et c'est pour ça qu'on avait vu donc, que c'est à sa voix qu'on va reconnaître le bon berger. Je vous avais dit aussi la dernière fois, je reviens dessus, c'est que le bon berger, c'est Jésus. Et Jésus-Christ, comme bon berger, je crois que personne ne peut discuter ça, hein? Jésus-Christ, le bon berger, tout le monde cherche Jésus, le bon berger. Et tout le monde voudrait que Jésus soit réellement mon berger et que je sois réellement sa brebis. Et chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous devons nous prendre pour les brebis de Jésus. Voilà les brebis, elles sont mignonnes, hein? Donc, et les brebis du bon berger. Et donc, chaque brebis, c'est-à-dire chaque chrétien aujourd'hui sur terre, cherche à découvrir qui est Jésus, où se trouve Jésus et qu'est-ce que Jésus-Christ veut de moi. Et c'est pour ça que chaque brebis est à la recherche du bon berger. Maintenant, il faut savoir que parmi ces bons bergers, il y a un discernement à avoir. Il y a Jésus, il y a des faux prophètes, on a vu ça la dernière fois, il y a des bandits, il y a des voleurs. Et il faut discerner qui peut être bon berger et qui peut ne pas être bon berger. Et je veux dire que le bon berger se reconnaît donc à la voix. La voix, pour moi, c'est clair, c'est ce que dit le berger. Et ce que dit le berger, c'est quoi? C'est forcément la parole de Dieu. Et on va toujours revenir à la même chose. Il faut discerner et accepter la vérité. Et la vérité, il n'y en a pas 36 000, il n'y en a pas 40 000, il n'y en a pas 50 000. Il y a une seule vérité. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus-Christ est la vérité. Et c'est pour ça que c'est Jésus, le bon pasteur, qui donne à travers sa voix la vérité qu'est la parole de Dieu. Je vous rappelle notre émission avec le titre de l'émission qui est marqué ici derrière moi, « Ta parole est vérité ». Ta parole est vérité, Jean 17, 17. Et ta parole qui est vérité, la voici, la voix du bon berger, eh bien la parole qui est la vérité. Maintenant, la vraie question c'est quoi? Et la question que se posent toutes ces brebis, cette vérité va se trouver où? Et c'est pour ça que Jésus-Christ, qui est venu sur terre et qui n'est pas fou, dans la première épître de Timothée, chapitre 3, verset 15, nous dit que l'Église est colonne et appui de la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu, cette vérité, elle se trouve où? Dans l'Église. Saint Paul est clair, 1 Timothée 3, 15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et la vérité se trouve dans l'Église. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, il est important de comprendre que la parole de Dieu, la voix du bon pasteur que je vais l'entendre en premier lieu à l'intérieur de l'Église que le Christ a voulu. Hein. C'est pour ça qu'on a vu la dernière fois Jean 21, 15. Et dans Jean 21, 15, on a vu que Jésus-Christ dit à Pierre, « Sois le berger de mon troupeau. » Le berger, c'est qui? Le berger, c'est Jésus. Jésus qui est le bon berger, Jean 10, 11, « Je suis le bon berger. » Et Jésus-Christ qui est le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il meurt, il part auprès de son Père, le jour de l'ascension, il est assis à droite du Père, il reste là-haut au ciel. Eh bien, ses brebis maintenant sont sur terre, et ses brebis doivent continuer à suivre le bon berger. Jésus-Christ au ciel, personne ne le voit, personne n'entend, personne ne l'écoute. On pense qu'il agit, qu'il est présent dans nos cœurs, c'est vrai. Mais après, ça peut être subjectif, pas trop obligé, on ne sait jamais trop. Il y a des gens qui disent qu'au nom de Jésus-Christ, ils sont devenus fous et malades. Hein? Il y a des gens qui, au nom de Jésus-Christ, font n'importe quoi aujourd'hui. Et c'est pour ça que, pour être sûr d'avoir le bon berger, Jésus-Christ n'est pas fou, qu'est-ce qu'il fait? À la résurrection, il dit à Pierre, « Pierre, sois le berger de mon troupeau. » Et Jésus-Christ commande bien à Pierre de continuer à gérer les brebis. Qui va gérer les brebis après Jésus? C'est Pierre. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, je vous dis, c'est l'évangile que je lis. C'est la Bible que je lis. C'est la sagesse de Jésus-Christ qui est venu sur terre et qui a voulu, avant de partir, faire que nous ne soyons pas perdus par rapport à son enseignement qui est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que relisez toutes les épîtres de Paul et regardez le nombre de passages dans lesquels il est dit que faites attention aux faux apôtres, aux faux prophètes, à tous ces gens qui sont là, qui vont vous tromper et tout le reste. Donc, Jean 10, 11, je suis le bon berger. Jean 21, 15, Pierre, sois le berger de mon troupeau. Et c'est pour ça que nous, les catholiques, nous pensons que Pierre est le berger du troupeau de Jésus, voulu par c'est Jésus qui l'a voulu. Et après Pierre, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a notre pape qui s'appelle le pape François. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, il est argentin, moi je ne sais plus rien. Celui d'avant, il était Ratzinger, c'était Benoît XVI, il était allemand. Celui d'avant était polonais. Le prochain, est-ce qu'il sera camerounais ou chinois? Aucune idée et ça m'est égal. Mais je sais qu'une fois qu'il sera choisi, il sera pour moi le berger. Et je ne peux pas, moi, Père Hervé Marie, en tant que celui qui lit les Écritures et qui essaie de comprendre la Bible, me trouver en opposition avec celui qu'on appelle le berger. Et c'est quand même gênant de trouver des gens aujourd'hui qui vous prêchent l'Évangile en vous disant carrément que le pape, c'est le diable. Et au bout d'un moment, on se demande, quand ils lisent les Écritures, ce qu'ils font. Et si vraiment l'Esprit-Saint les éclaire. Alors, c'est pour ça que ce passage, vous voyez, du bon berger, du bon pasteur, Jean 10, 11, je suis le bon berger. Jean 21, 15, sois le berger de mon troupeau. Et on comprend maintenant pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans Matthieu 16, 18, le passage, je vous rappelle qu'il y a d'abord la profession de foi de Pierre. Jésus-Christ demande aux apôtres, pour vous, qui suis-je? Et après avoir dit, pour vous, qui suis-je? Pierre a répondu, tu es le Fils du Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus-Christ va dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Intéressant. Parce que celui qui entre par la porte dans Jean 10, c'est celui qui a les clés. Il faut avoir les clés pour entrer dans la maison. Et les clés ont été données à qui? À Pierre. Ce n'est pas moi, c'est logique, hein? Et on voit comment, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Rien ne peut agir contre l'église du Christ bâtie sur pierre. J'y peux rien, c'est l'évangile que je lis. Moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Les portes du séjour des morts, ce qui envoie à la mort, c'est le péché. Le péché ne peut rien contre l'église du Christ bâtie sur pierre. Et c'est pour ça que dans Luc 22, 32, Jésus-Christ va prier et va dire, « Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, raffermis tes frères. » Bon, si vous croyez, vous, que la prière de Jésus-Christ est inefficace, il n'y a pas de problème. Croyez-le si vous voulez. Mais moi, je ne le crois pas. Et moi, je crois que la prière de Jésus est une prière qui est vraie. Une prière qui est claire et qui est nette. Une prière qui est efficace. Et je crois que dans Luc 22, 32, lorsque Jésus-Christ dit, « J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Je crois, moi, Père Hervé Marie, que ce verset biblique est vrai. Et je crois, moi, que Jésus-Christ a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Et la foi du pape François, la foi de Benoît XVI, la foi de Jean-Paul II, la foi de tous, de Pierre d'abord, de l'un, le deuxième pape, est une foi qui ne défaille pas. J'y suis pour rien, ce n'est pas de ma faute. » Et c'est pour ça qu'un jour, l'Église va proclamer l'infaillibilité pontificale. Quand on dit que le pape est infaillible, c'est pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, il n'est pas infaillible dans une addition. Il peut très bien faire une addition et faire une faute. Il peut faire une faute d'orthographe. Il peut faire des fautes dans sa vie. Il peut même pécher. Oui. Mais du côté de la foi, non. Et c'est pour ça que nous croyons que Luc 22, 32 est clair. J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, raffermis tes frères. Et il y a une prière spéciale qui fait que depuis que le bon berger Pierre est là, eh bien depuis, il y a une foi qui ne défaille pas. Et je pense que objectivement, cherchez bien, mais vous ne verrez pas dans l'Église catholique un pape un jour qui a commencé à enseigner que la Trinité n'existe pas. Vous n'allez pas trouver un pape qui a commencé à vous dire que Jésus-Christ est un faux prophète. n'avez pas trouvé un pape qui a commencé à vous dire jamais, ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il y a une doctrine dans l'Église qui est là et qui existe depuis 2000 ans, qui est belle et que nous devons respecter. Donc, je reprends Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Son Église. Quelle Église? L'Église de Jésus. L'autre jour, j'écoutais une émission religieuse d'une autre Église. Et il y a un pasteur qui parlait, il disait que oui, l'Esprit Saint, les gens doivent être à l'écoute de l'Esprit Saint, tous ceux qui fondent des groupes, tous ceux qui fondent des églises. Mais un fondateur d'église n'est pas à l'écoute de l'Esprit Saint, mes amis. Comment pouvez-vous croire, vous, qu'un homme qui fonde une église est fruit de l'Esprit Saint? Expliquez-moi. Jésus lui-même qui est Dieu fonde son église. Maintenant, un homme fonde son église. Et vous voyez, l'homme-là, c'est un homme qui est lié à Jésus, qui est l'ami de Jésus. Mais ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Aucun fondateur d'église ne peut être l'ami de Jésus, que les choses soient claires. Le fondateur d'église, c'est un orgueilleux qui veut prendre la place du Christ et fonder une église. Comme le seul qui a le droit de fonder une église, qui s'appelle Jésus et Jésus seul. Le seul véritable bon berger. Jean 10, 11, je suis le bon berger. Ce verset montre d'une manière claire et nette que notre pape, en tant qu'il est pape, dans sa fonction de pape, a une autorité que le Christ lui a donnée, qui vient de la prière même de Jésus, qui est la prière la plus efficace du monde entier. Et cette prière de Jésus qui est claire et qui montre bien que le pape ne peut pas se tromper dans l'ordre de la foi. Il est clair, je vous rappelle, il faut que les choses soient claires, que le pape peut se tromper en faisant sa vie de chaque jour. Mais dans l'ordre de la foi, le pape ne peut pas se tromper. Le pape peut se tromper lorsqu'il fait une addition, une multiplication. Il peut se tromper en ratant une marche et en tombant par terre. Il peut se tromper en péchant même. Il peut se tromper, mais il ne peut pas se tromper dans l'ordre de la foi et des mœurs. Et c'est pour ça que l'Église catholique nous a dit d'une manière claire et nette qu'il y a un dogme qu'on appelle l'infaillibilité pontificale. Et ce dogme est un dogme qui est là pour nous montrer que notre pape, en tant qu'il est pape, est soutenu d'une manière spéciale par l'Esprit Saint, ce n'est pas de ma faute, et étant soutenu par l'Esprit Saint, il ne peut pas se tromper. Les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Rien ne peut agir contre l'Église du Christ qui est bâtie sur pierre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est clair, c'est net, c'est propre. Je vous lis, et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, l'Église de Jésus, elle est bâtie sur la personne de Pierre. Que les portes du séjour des morts ne reviendront pas contre elle. Rien ne peut attaquer l'Église du Christ bâtie sur Pierre. Même Satan n'y peut rien. L'Église du Christ durera et perdurera, que vous le vouliez ou non, parce que c'est la parole de Dieu et l'Évangile qui le dit. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, les clés qui sont remises à Pierre. Je vous rappelle que c'est celui qui a les clés là, qui entre par la porte. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc, ce passage, on voit bien que le bon berger pour nous, le bon berger, c'est celui qui va parler aux brebis en premier lieu. Et celui qui va parler aux brebis en premier lieu, c'est celui qui va donner la parole de Jésus. Et la parole de Jésus, Luc 10, 16, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. C'est ce que le Christ dit aux apôtres lorsqu'il les envoie en mission. Et c'est pour ça que la parole de Dieu que le Christ nous a donnée a été conservée dans l'Église. Étant conservée dans l'Église, est donnée par ceux qui aujourd'hui sont les responsables dans l'Église pour donner la parole de Dieu. Le premier responsable, c'est d'abord l'évêque du diocèse, qui doit être le gardien de la bonne doctrine enseignée dans son diocèse, et ensuite cette doctrine qui est enseignée par tous les prêtres, et tous les catéchistes, et tous ceux qui ont un désir de voir vivre dans l'Église catholique ce que le Christ a voulu nous partager, nous donner, pour pouvoir donner cette parole aussi à nos frères, à nos sœurs, et dans cette Église en même temps, prendre les moyens de sanctification à travers tous les sacrements. Donc, à partir de ce passage, Jésus-Christ est le bon berger. Le bon berger connaît ses brebis. Ses brebis écoutent sa voix. Cette voix, c'est premièrement la voix qui est donnée à travers l'Église qui aujourd'hui est l'Église qui nous donne la parole de Dieu et qui est bâtie sur la personne de Pierre. Je vous rappelle que cette Église s'appelle l'Église catholique. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot catholique. Le mot catholique est né en 110 après Jésus-Christ. L'apôtre Jean venait à peine de mourir lorsque l'Église qui commençait déjà à s'établir à droite et à gauche a pris le nom de catholique. Je vous rappelle qu'il y a un argument qui est tellement bête et idiot, mais il faut bien que je vous le dise parce que qu'on ne rentre pas dans des détails stupides, c'est quand on vous dit que catholique n'est pas biblique. Quand quelqu'un te dit, mon père, est-ce que catholique est biblique? Ta question, ça veut même dire quoi, mon frère? Protestant est biblique? Winner's Chapel est biblique? plein d'évangiles et bibliques, va et raconte des bibliques. Qu'est-ce qui est biblique? La seule chose qui est biblique, tu n'as pas le choix, c'est Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église du Christ bâtie sur Pierre. Il a dit ça quand? Quand il était sur terre il y a 2000 ans. Quelle est l'église qui existe depuis 2000 ans? Elle n'a pas 36 000, que les choses soient claires. Et éprouver les esprits, discerner. Et à partir de ce discernement, eh bien, il faut quand même essayer de comprendre quelle est l'église que le Christ a voulu et que c'est dans cette église que je vais entendre la voix. Alors maintenant, vous voyez ce que je veux dire en plus. Ce que je voudrais dire, c'est que dans quelle mesure je peux continuer à écouter des gens, par exemple, qui ne sont pas catholiques. Vous, les catholiques qui m'écoutez, moi, je vous déconseille de pouvoir discuter avec des témoins de Jéhovah, des pentecôtistes, des adventistes, des gens des autres églises. Et la raison, c'est laquelle? C'est que la plupart d'entre nous, les catholiques, nous sommes des catholiques feignants, paresseux, ignorants, qui ne connaissons absolument rien. On connaît que notre Père, je vous salue Marie, atara et tac, terminé, la messe du dimanche, et c'est fini. Alors, il est clair que si c'est ton cas, commence premièrement par te former. Et une fois que tu seras formé, tu pourras discuter avec les gens des autres églises. Mais il faut savoir ne pas discuter avec des gens qui sont plus forts que toi. Tu ne vas pas commencer à lutter avec un homme qui fait 2,40 m et qui pose 180 kg et qui va t'envoyer une tarte à travers la tête en 2 secondes. Non, tu peux lutter avec quelqu'un qui est à peu près ton poids et ta taille. Mais si tu as quelqu'un qui est plus fort que toi, tu ne vas pas aller. Tu ne vas pas commencer à t'amuser avec un gars qui est ceinture noire de judo de Nambudo. Il va te battre là très mal, ça c'est clair. Et c'est pour ça que tu ne peux pas non plus discuter bibliquement avec des gens qui connaissent la Bible mieux que toi. Sinon, au bout d'un moment, ces gens-là vont t'absorber, ils vont te prendre. C'est clair. Et je vous rappelle que lorsque deux personnes discutent Bible ensemble, la personne qui gagne n'est pas la personne qui dit la vérité. La personne qui gagne, c'est la personne qui a le plus d'arguments. C'est la personne qui est la plus convaincante. Voilà la personne qui va gagner dans un débat biblique. Voilà. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où tu ne connais pas bien la Bible, ce n'est pas la peine de commencer à vouloir discuter avec les autres églises. Mais il est clair que moi, je tiens à vous dire, je prends plaisir à écouter une certaine femme qu'on appelle Joss Meyer, qui n'est pas catholique, qui a une chaîne de télévision pratiquement à elle, qui fait des évangélisations partout, et qui a une manière de prêcher que je trouve très belle, avec un discours qui est très simple. Alors après, quelque part, c'est sûr que du côté des églises et de l'église, on peut discuter, mais en général, il y a un discours qui est donné par cette femme avec une compréhension de l'évangile d'une manière simple, que moi, je trouve belle. Et je prends plaisir à écouter cette femme qui n'est pas catholique. Et donc, à partir du moment où quelqu'un n'est pas catholique, mais vous enseigne qu'il faut aimer Jésus, qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut croire à Dieu, la Sainte Trinité, Jésus-Christ qui est venu sur terre, ton sauveur, ton Seigneur, ton ami, tout le reste. Mais quelque part, il y a quand même un discours qui est dans lequel on retrouve la voix du bon berger. Mais la voix parfaite du bon berger, pour moi, c'est la voix du bon berger qui est donnée avec l'autorité que le Christ a donnée à l'Église qui est son Église. Et je tiens à vous dire que c'est dans l'Église que vous trouverez la vérité plénière et totale de la voix du bon berger, du bon pasteur. Alors, vous pouvez très bien écouter d'autres choses, mais il faut d'abord être bien formé. Et une fois que je suis bien formé et que je sais pourquoi j'ai raison d'être catholique, alors il est clair que de temps en temps, je peux essayer d'écouter d'autres personnes en essayant de prendre chez eux ce que je peux avoir de positif, parce qu'il y a quand même des gens qui annoncent l'Évangile d'une manière belle et qui ne sont pas forcément catholiques. Mais il est clair que dès qu'on va entrer sur les débats du problème de la parole de Dieu et de la Bible, là il y aura des oppositions, c'est clair. On va discuter sur les frères et sœurs de Jésus, baptême par aspersion, par immersion, mais qui sont des thèmes, qui sont pour des thèmes fondamentaux et essentiels de la révélation de Jésus-Christ. Donc, le bon berger, Jean chapitre 10, verset 11, les premiers versets, et puis on nous montre même que, apparemment, pour une fois en plus, les disciples ne comprennent pas grand-chose. Hein? Je vous relis donc Jean 10, 11, en vérité, je vous le dis, celui qui passe par-dessus le mur du parc à brebis au lieu d'entrer par la porte, c'est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis reconnaissent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Si c'est un autre, elles ne vont pas le suivre, bien mieux, elles s'enfuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Et Jésus-Christ dit au verset 6, Jésus leur donna cette comparaison, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Et les disciples ont eu du mal à comprendre cette histoire de berger, de porte, de voleur et de bandit. Alors, au verset 7, Jésus-Christ continue. Aussi, de nouveau, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et Jésus-Christ, maintenant, il nous dit un peu plus haut qu'il est le berger. Maintenant, il nous dit qu'il est la porte. Aussi, de nouveau, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des bandits, et les brebis ne les ont pas écoutés. Donc, il essaye de leur faire comprendre et d'expliciter davantage. Pour leur faire comprendre, hein, tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des bandits, et les brebis ne les ont pas écoutés. Alors, comprenons bien. Tous ceux qui sont venus avec un message autre que le message que Dieu a voulu donner aux hommes. Je vous rappelle que le message de Dieu aux hommes se trouve dans deux alliances. Dieu avec les hommes n'a fait que deux alliances. L'ancienne alliance avec Abraham, Moïse, les rois et tout ça, et la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je vous rappelle dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, lorsqu'il y a le trône, l'arc-en-ciel, il y a 24 vieillards. Les 24 vieillards qui sont autour du trône représentent les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. L'alliance, quelqu'un, c'est le Père qui est sur le trône. Arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Le Père fait alliance arc-en-ciel avec les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. C'est pour ça qu'il y a les 24 qui sont là, présents dans l'Apocalypse, chapitre 4. Et donc, pour bien montrer qu'il n'y a que deux alliances que Dieu a faites avec les hommes. La première alliance, Abraham, Moïse et le reste, l'ancienne alliance, et la nouvelle alliance en Jésus-Christ. En dehors de ça, Dieu n'a pas fait d'alliance et de révélation avec quelqu'un d'autre sur la terre. Il n'y a pas de révélation de Dieu dans l'hindouisme. Il n'y a pas de révélation de Dieu dans toutes les autres religions. Même l'islam, c'est clair, il n'y a pas de révélation de Dieu dans l'islam. C'est ce que nous croyons, nous les chrétiens. Nous croyons qu'il n'y a que deux révélations, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, et maintenant, tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des bandits, et les brebis ne les ont pas écoutés. Donc, tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des bandits. Tous ceux qui sont venus, sauf Abraham, sauf Moïse, sauf David, sauf Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est venu avant, il n'a jamais voulu prendre la place du sauveur. Et quelqu'un qui veut prendre la place de Dieu devient forcément un bandit, un voleur. Parce qu'il n'y a que Dieu lui-même qui peut venir pour remplir sa mission qui est de sauver les hommes. Et le seul sauveur, c'est Jésus et Jésus seul. Je me souviens à l'époque où Père Sopho était encore à la carrière, celui que moi j'appelle Monsieur Sopho parce que je n'ai jamais voulu l'appeler Père. Dans les livres qui racontent la vie du Père Sopho, il est dit d'une manière claire et nette que Sopho est Jésus-Christ qui est revenu sur terre. Voici ce que Jésus-Christ dénonce. Voleur et bandit. Moun, qui à droite et à gauche a fait des mariages partout, se prenait aussi pour Jésus-Christ. Ce sont des bandits et des voleurs. Et c'est pour ça que c'est Jésus et Jésus seul qui est le sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain.